Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue ici, bienvenue aux internautes aussi. On voudrait vraiment vous inviter à prendre part à cette célébration ce matin. C'est pas merveilleux, le Seigneur, il vous a encore donné le souffle de la vie ce matin et réaliser ça ce matin, et qu'est-ce que ça fait du bien. Merci au Seigneur pour le souffle de vie ce matin. On veut vraiment l'adorer, le louer, élever son nom. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel si fort et si puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire ? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire.
Psaume 40, verset 17 nous dit « Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ». C'est ce que nous voulons faire à travers ce prochain chant qui dit simplement « Il est exalté ». Parce qu'il n'y a personne au-dessus de la terre ou sur la terre qui est au-dessus de notre Dieu. Vous le croyez ? Amen. On va prendre ce chant. « Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son nom. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité règnera, tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Et on reprend, il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom.
Il est Seigneur,
il est Seigneur, sa vérité règnera. Se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.
Encore une fois, il est Seigneur.
Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.
Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.
Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.
Encore une fois.
Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.
Il est Seigneur.
Il est Seigneur. Sa vérité règnera, tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur. Sa vérité règnera, tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.
Tu es Seigneur, tu es notre maître, notre seule fondation. C'est sur toi qu'on veut bâtir ce matin. C'est sur toi qu'on veut bâtir, oui. On veut être ancré en toi, car tu es notre rocher. Alléluia.
Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera. Jésus.
malgré le vent, malgré la pluie. On veut bâtir sur toi, Jésus.
La Bible nous encourage à nous encourager les uns les autres, à nous exhorter les uns les autres. Et ce matin, ce qu'on va vivre, on peut rester debout ensemble. J'ai invité notre sœur qui a reçu trois orientations, trois encouragements pour nous. Et on va se tenir vraiment focus. La Bible nous appelle à discerner. L'Église doit exercer ce ministère de discernement pour prendre ce qui est bon, mettre de côté ce qui n'édifie pas. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand l'Esprit veut nous interpeller, voilà, on est dans un discernement ensemble, dans la louange, dans l'adoration. Et on croit que le Seigneur, au travers de ce qu'il communique, des charismes, des dons, il exhorte, il encourage. Donc on est avec toi pour écouter ce que tu portes sur le cœur et discerner ensemble.
Bonjour Église, j'ai reçu trois paroles. La première est la suivante. Tu te demandes jusqu'à quand va perdurer cette situation ? Bientôt, je vais te donner un sujet de louange. Alors, tu reconnaîtras que c'est moi qui t'ai conduit jusque-là, jusqu'à ce point. La deuxième parole, c'est une personne qui a peur ou qui n'arrive pas à laisser l'esprit s'exprimer à travers elle. Et l'esprit lui dit, laisse couler le flot de l'esprit qui est en toi. Et la troisième parole, c'est tirée d'Ésaïe 41, verset 10. Et il est écrit, ne crains point, je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen.
Il y a un appel au lâcher prise, à apprendre à laisser Dieu nous convier, nous inviter, nous conduire. On aura encore une autre parole qui va venir, on va simplement prendre un temps de recueillement, de prière. Peut-être quelqu'un au milieu de nous qui a besoin de cette parole et qui sent vraiment comme quelque chose qui se déclique sur cette joie, sur cette paix, sur la vie de l'esprit, sur le fait qu'on promette, tu promènes des regards inquiets. Alors on va prier Dieu ensemble. On va demander au Seigneur sa grâce et je vais te demander de pouvoir prier pour les personnes qui sont là en train peut-être de conduire des regards inquiets, qui ont besoin de laisser l'Esprit de Dieu les travailler, les façonner. Ceux aussi qui sont en train d'attendre et qui persévèrent et Dieu veut leur donner un sujet de joie, mais ils doivent encore être renouvelés dans leur patience, dans leur persévérance. Alors on va prier, Seigneur. Celles et ceux qui sont à l'aise avec ça, vous pouvez aussi lever les mains vers le ciel, élever votre voix en même temps que notre sœur pour qu'on puisse avoir un temps d'intercession, un temps vraiment où le Seigneur conduit son Église dans un lâcher-prise ce matin.
Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons ce matin pour la grâce que tu nous donnes de nous tenir devant toi. Nous sommes tes enfants et nous savons que par moments, ça peut être difficile de lâcher prise, mais nous sommes tes enfants. Nous avons besoin de ton aide. Nous avions besoin de toi. Secours-nous, aide-nous, donne la force, la confiance que tu mets en nous. Donne-nous de pouvoir le laisser s'exprimer, Père. Aide-nous, nous avions besoin de toi. Nous avions besoin de toi, aide-nous, Père. Alors nous te louerons, alors nous te célébrerons ensemble, Père. Merci pour le bon Père que tu es pour nous. Alléluia.
On reste dans cet exercice du discernement, Anita.
Tu dis à Dieu, et tu te dis à toi-même, ça y est, j'ai réussi, j'ai atteint mon objectif. J'ai atteint mon but et tu es très content de toi, très contente de toi. Et le Seigneur comprend ta satisfaction. Tu peux être content, tu peux être contente. Mais le petit problème, c'est que pour l'instant, tu suis que ta voix à toi, que tes idées à toi. Tu ne penses pas vraiment à demander à Dieu ce qu'il en pense. Alors tu vas dans les sens qui te conviennent à toi, parce que tu te dis intellectuellement, c'est tout à fait raisonnable, c'est très juste. Et le Seigneur ne te reproche pas d'utiliser l'intelligence qu'il t'a donnée, l'énergie, la capacité qu'il t'a donnée. Mais il dit, mais en fait, quelle est la différence entre ta façon d'agir, de travailler, et la façon d'un enfant de Dieu, et la façon d'un non-chrétien ? En fait, en réalité, tu vis comme si tu ne connaissais pas le Seigneur, comme si tu ne pouvais pas solliciter son esprit qui pourtant est en toi. En fait, tu n'en fais qu'à ta tête. Le Seigneur veut te dire, je ne te reproche pas de prendre des initiatives, je ne te reproche pas ton énergie. Tout cela, c'est moi qui t'ai donné ces capacités. Mais maintenant, je te demande de venir à moi, dit le Seigneur, de déposer à mes pieds tes projets, de dialoguer avec moi, d'échanger, de dire, voilà Seigneur, quels sont mes projets, qu'en penses-tu ? Parce que le Seigneur a parfois des voix que toi, tu ne connais pas. Parce que le Seigneur a envie de travailler avec toi et il voudrait que tu en viennes à travailler avec lui. Le Seigneur t'attend. Parce que oui, tu réussis ta vie, mais ce que le Seigneur veut que tu suives comme chemin, c'est autre chose, une autre profondeur, une autre qualité, une autre réussite. Ça n'empêche pas la réussite dans ce monde, mais d'autres choses bien plus précieuses qui ont une valeur éternelle. Alors maintenant, te dit le Seigneur, décide-toi vraiment, vraiment, à venir à moi, à me parler de tes projets, à les déposer à mes pieds, et tu vas voir si ensemble, on ne peut pas faire mieux que toi tout seul.
Alors qu'on est dans le recueillement, quelqu'un qui est comme ça surpris par cette pensée parce que vous vous dites « Mais oui, c'est moi, mes projets avancent et je ne consulte pas Dieu, je n'ai pas prié Dieu pour ça. » J'ai une bonne nouvelle pour vous. L'Église, c'est un lieu, c'est un moment de rencontre où on peut tout à fait repartir dans la bonne direction. Si tu es cette personne qui a oublié en chemin que tu es enfant de Dieu, que tu dois recommander ton sort à l'Éternel et que tu veux le faire, ce matin on voudrait te donner l'occasion d'être béni par l'Église et prier avec toi. Si quelqu'un est interpellé par cette parole maintenant, juste faites-vous connaître en levant la main de dire Mathieu, oui, je suis cette personne qui a oublié en chemin de tu lèves ta main et il n'y a aucune condamnation, il n'y a rien. Juste un pas de foi de dire oui, c'est moi. La parole, elle m'interpelle. Il y a des mains qui se lèvent et on va prier pour que le Seigneur vous accompagne dans sa paix, dans sa grâce, parce que Dieu est heureux ce matin que vous vouliez s'y interpeller par lui, parce qu'il va vous emmener encore dans plus de profondeur. Parce que votre cœur, il est bon ce matin de dire « Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi ». Église, est-ce qu'on peut lever les mains ensemble vers le ciel et prier pour toutes ces personnes qui sont en train de reconsacrer leur projet à Dieu ? Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes interpellées ce matin qui se rendent compte qu'en chemin, ils ont oublié l'essentiel, recommander son sort à l'Éternel. Alors nous prions pour elles maintenant que le Saint-Esprit apaise leur âme et qu'ils se vivent ici une union, une communion. Et que les projets dans lesquels ils sont maintenant emmenés puissent trouver la profondeur qui a un impact éternel, Seigneur Jésus. Que ce soit par les affaires, le travail, la famille ou autre, nous te prions pour que ta profondeur vienne faire une différence. Et qu'au travers de tout ce que les personnes qui ont levé la main ont entrepris, ils se rendent compte et soient un sujet de témoignage de dire, en fait, quand l'Éternel est dans l'affaire, toute la gloire revient à Jésus déjà. Et en plus, il m'emmène en plus en profondeur et l'impact est merveilleux parce que ça touche le corps, ça touche l'âme et ça touche l'esprit. On te prie pour des témoignages, Seigneur Jésus, de bénédiction dans la vie de toutes celles et ceux qui te recommandent maintenant leur sort et leur projet. À toi toute la gloire, Seigneur. Parce que oui, nous voulons continuer d'apprendre à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose nous sera donnée par-dessus tout. Amen.
Justice.
Tu es notre sauveur. C'est ce que nous voulons encore chanter. Ô Jésus, mon sauveur.
Seigneur, nul n'est comme toi, jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux.
Mon abri,
mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, t'es de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et s'incline et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses.
Chante au Seigneur.
Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses.
Rien ne pourrait.
Rien ne pourrait égaler tes promesses.
Rien ne pourrait.
Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi.
Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.
On peut prendre place ensemble ce matin. Des temps de louange, des temps d'adoration, des temps de prière, des temps à l'écoute aussi de charisme, de ce que Dieu dépose dans les cœurs des uns et des autres. Je voudrais prendre juste un temps pour remercier toutes les personnes qui rendent ces rencontres, ces célébrations ou autres possibles. Vous savez, ce matin, c'est la grosse rentrée, la pré-rentrée, on va dire, au niveau des jeunes, des 0-30 ans, avec un grand jeu. Et il y a comme cela plein de bénévoles impliqués, plein de personnes qui s'occupent d'eux au rez-de-chaussée bas de ce bâtiment. Et c'est une grande fête. Ils sont accueillis, ils sont aimés. On parle avec un langage qu'ils comprennent et c'est une grande joie pour nous, pour toutes les personnes, de la traduction jusqu'à l'accueil extérieur. Certains sont au service, d'autres sont dans la salle en ce moment en train de nous servir. Est-ce qu'on peut les remercier en les applaudissant et en leur disant merci pour tout leur service? Vous ne le saviez peut-être pas, mais il y avait une équipe hier qui est venue pour faire en sorte que cet endroit soit nettoyé, soit vraiment bien pour pouvoir accueillir chacune et chacun. On l'appelle ici à l'EPI l'équipe ménage et ils font un super travail pour permettre ce genre de rencontre. Et on est juste bénis comme cela de plusieurs personnes qui servent Dieu et en servant Dieu, ils vous servent vous. Donc ils ont une petite serviette sale pour que vous ayez les pieds propres et ça c'est génial quoi. Amen. Bienvenue à ça. Oh, pour encore les remercier, effectivement. Soyons généreux en remerciements. Ça ne nous tuera pas. Je m'appelle Mathieu Thoman, pour celles et ceux qui sont en visite ici sur Strasbourg pour prendre congé, pour visiter de la famille, pour découvrir la plus belle ville de France. On est vraiment très heureux de pouvoir vous accueillir ce matin. Je suis partie de l'équipe pastorale et on est ensemble pour un temps de célébration. J'ai quelques informations à vous transmettre sur ce mois de rentrée pour nous ici à l'église de l'EPI. La première information, c'est un apéro. Oui, si vous n'êtes pas alsacien, même en fait, nous, l'apéro, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais c'est pas n'importe quel apéro, d'accord? Je sais qu'en France, vous avez une certaine idée que c'est l'apéro, mais calmez-vous. Nous sommes les créateurs de l'apéro en Alsace. Non, c'est juste l'occasion. Pour des personnes qui fréquentent nos célébrations à chaque dimanche, qui sont bénéfices d'autres personnes qui les servent, de pouvoir eux aussi s'impliquer de manière efficace, comme par exemple aider celle qui va apporter la parole dans un instant à pouvoir avoir tout ce qu'il lui faut, peut-être au niveau de la louange, dans la photographie, dans l'accueil extérieur, peu importe. Vous savez pas par où commencer, cet apéro, c'est votre porte d'entrée pour découvrir l'église de l'intérieur, découvrir la diversité des ministères qui composent notre église. On a une belle église qui sert dans plein de domaines différents, pour bénir plein de publics différents. L'apéro start, vous avez une possibilité d'inscription numérique. Vous flashez ce QR code et vous serez inscrit parce qu'on veut quand même avoir une liste d'inscription parce qu'on veut pas commander des quantités de nourriture et faire du gaspillage. Pour nous, c'est important de respecter ça. Donc, aidez-nous à bien nous organiser. Donc, vous avez le QR code. Vous avez aussi, à la fin de cette célébration, des personnes qui vous attendront tout de suite à votre droite quand vous sortez de cette grande salle. Vous avez des tables hautes comme celle-ci et vous aurez des personnes qui vous attendent avec des tablettes pour vous aider à vous inscrire parce que peut-être vous êtes plutôt école papier. Personne ne vous jugera à l'église parce que vous êtes version papier, mais on a besoin de gérer un certain nombre d'informations. Donc, ils auront une tablette et vous pourrez entrer vos informations pour vous inscrire. Et comme ça, on pourra vous contacter et vivre cet apéro start qui a lieu la semaine prochaine, le dimanche 21 septembre. C'est un moment très fort de notre rentrée. Donc, si vous fréquentez, vivez l'église et vous interrogez sur une application, ce moment-là est pour vous. Papa, maman d'ado et de pré-ado aussi, ou c'est que les ados? J'ai un trou de mémoire. Ado. Donc tous les papas et les mamans des ados, il y a une date à inscrire dans vos agendas pour les ados qui vivent avec vous l'église de l'EPI. C'est le week-end d'intégration des ados qui aura lieu du 18 au 20 octobre. D'accord? Vous aurez plus d'informations qui vont venir sur le lieu. La rentrée des 0-30, c'est la semaine prochaine, donc les groupes redémarrent aussi à ce moment-là. Il y aura plein d'infos pour eux. Papa, maman, soyez investis, impliquez-vous aussi dans cette dynamique qu'on a dans les petits groupes par âge, parce que vraiment, on veut bénir vos enfants. On peut pas le faire si vous n'êtes pas avec nous, et nous ne sommes pas avec vous. On aime les ados, et on veut vraiment les bénir, et ce week-end est pour eux. Vous avez une vie professionnelle, et vous posez la question, comment je peux glorifier Dieu au travail ? On a un parcours qui redémarre, qui s'appelle C'est Proactif. C'est un parcours pour accompagner les chrétiens, les disciples de Jésus. C'est un parcours unique qui vous aide à transformer votre travail en un ministère vivant, qui va vous donner du sens, qui va vous aider à avoir un impact positif là où vous travaillez. C'est un groupe de 6 à 8 personnes pour favoriser des échanges. C'est 12 séances dans l'année d'1h30, d'octobre à juin 2026, c'est en visio. Vous pouvez aussi soit vous inscrire par QR code, et sinon vous avez ce flyer avec toutes les informations. Encore une fois, vous trouvez tous les flyers dans le hall. Il y a deux moyens d'avoir les flyers. Vous allez directement à l'espace vie d'église, vous avez un petit portique de flyers, vous y allez, il y a toutes les informations de l'église. Ou alors à la sortie de ce bâtiment, vous avez encore un portique avec des petits prospectus, vous avez vraiment toutes les informations. Même pour les rencontres des seniors, vous avez toutes les dates de rencontres, vous avez tous les prospectus, les flyers qu'il faut. Donc encore une fois, si vous êtes intéressé de donner un élan à votre vision pour votre travail, ce groupe de vie est pour vous. Dernière petite info, et pas des moindres, nous allons accueillir au mois d'octobre Christian Robichaud, qui est le pasteur principal de l'église Paris Métropole. Christian sert Dieu depuis tant d'années maintenant. C'est quelqu'un qui est passionné de la prière, passionné d'une église en bonne santé, une église dynamique. Et on l'aura pour le week-end à l'occasion de notre conférence pour hommes qui s'appelle Iron Man. Donc je vous lis un petit message, et il y en aura bien sûr d'autres, sur le thème que Christian veut traiter avec tous les hommes de l'église. Il faudra évidemment s'inscrire. Le thème, c'est inébranlable. En ces temps où toutes les institutions sont ébranlées sur tous les continents, où cette génération n'a plus de repères, Dieu a tout prévu et tout pourvu à l'avance pour élever des hommes chrétiens inébranlables. Donc, Iron Man, c'est pour tous les hommes de l'Église et même vos amis, vos collègues qui veulent se fonder, qui veulent s'équiper dans des temps comme aujourd'hui, que ce soit dans la vie personnelle, le travail ou autre. Ça a lieu le 25 octobre 2025, donc inscription obligatoire. Tout compris, la conférence, le repas mexicain. Oui, vous avez bien entendu, il y aura un petit repas mexicano ou mexicano. Donc, tout pour 12 euros. Vous pouvez vous inscrire en ligne via le QR code. Vous pouvez aller à l'espace. Qui se moque de mon accent italien, italien? Espagnol. Pardon, les Italiens, pardon. Pardonnez-moi. Qui a rigolé quand j'ai parlé espagnol? Mexicano. Ah, là. Voilà, donc un bon repas pour vous. Inscription, 12 euros. Mobilisons-nous pour ce temps fort qui nous édifie. Amen. Dernière petite info très pratique. On est très heureux d'accueillir des centaines de personnes dans ce lieu et on a quelques petites règles de sécurité quand même. Comme vous le savez, la plaine des Bouchers, c'est un endroit très dynamique. Et je voudrais m'adresser aux cyclistes. On vous aime les cyclistes, vraiment. C'est trop bien de se déplacer en vélo, tout ça. Par contre, il faut respecter les sorties de secours, s'il vous plaît. De ne pas mettre vos vélos sur des petits portails de devant où c'est des sorties de secours, ou alors sur la petite ruelle qui est juste derrière, qui est une sortie de secours aussi. Parce que si on doit faire un exercice de sécurité pour sortir, les vélos vont bloquer et on va empêcher les gens de sortir. Donc, merci, s'il vous plaît, de respecter ça. Vous avez des attaches vélos sur le devant de la façade, mais ne mettez pas vos vélos n'importe où. C'est un petit retour de l'équipe de sûreté. On a essayé de les déplacer. Il y a même quelqu'un qui a mis son vélo et qui empêche en fait l'accès aux personnes à mobilité réduite. Donc, il y a une partie du vélo qui est sur la rampe. C'est-à-dire que si on doit évacuer quelqu'un, on doit accueillir quelqu'un, on ne peut pas le faire parce que le vélo bloque. Donc, s'il vous plaît, respectez les consignes des personnes de sûreté, les personnes qui vous accueillent. On essaye de vraiment mettre tout en place pour accueillir, vous accueillir dans de bonnes conditions et tout le monde. Donc, voilà, merci pour toute l'équipe de sûreté. On va écouter la parole maintenant. Je vais inviter Anne, on va prier pour elle. On va demander au Seigneur de la bénir, de nous bénir. Un sujet bénissant pour tout le monde. On est bon ? Seigneur, merci pour ces temps ensemble. Merci pour la vie de l'Église. Merci pour toutes ces occasions qu'on a de te rencontrer, de te connaître, de te faire connaître. Merci aussi pour ce temps important de la communication de ta parole à toute l'Église. C'est un temps, Seigneur, où on veut ensemble se mettre à l'écoute de la sagesse de ta parole, à l'écoute de ce que tu déposes dans le cœur de ceux qui portent ta parole à l'entièreté de l'Église aussi, rassemblés en ce lieu. Merci de bénir Anne, de la renouveler, la fortifier, et qu'au travers d'elle, nous, Église, nous puissions être encouragés, édifiés par rapport à notre vie de tous les jours. On la bénit dans le nom du Seigneur. Amen.
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 Merci Mathieu. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien lavé des pieds et sali des serviettes pour la gloire du Seigneur. Amen. Imaginez que chaque matin, une banque vous ouvre un compte avec 86 400 euros. Seulement, il y a deux règles. Deux règles. La première règle est la suivante. Tout ce que vous n'avez pas dépensé, vous êtes enlevé. Vous ne pouvez pas virer cet argent sur un autre compte, les mettre de côté. Vous devez les dépenser. Et chaque matin, la banque vous ouvre un nouveau compte avec à nouveau 86 400 euros pour la journée. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que la banque, elle peut interrompre ce jeu à tout moment, à n'importe quel moment. La question est, que feriez-vous de cet argent ? Moi, je sais, je vous le dis de suite. Je m'achèterai une coccinelle, l'ancienne, bien sûr, un van pour balader. Enfin, j'imagine, on ferait plein de choses. La carte bleue, on la ferait chauffer, on retirerait vite les sous, on irait les dépenser. Peut-être que certains connaissent cette histoire, mais cette banque, en fait, c'est Dieu qui, chaque matin, au réveil, nous offre 86 400 secondes de vie pour la journée. Et il ne peut pas y avoir de report. Ce qui n'a pas été vécu est perdu. Et chaque matin, Dieu nous refait ce don. Et bien sûr, ce don peut s'arrêter à tout moment. Le titre du message ce matin, c'est « Subir le temps ou s'en saisir ». Et cette image, elle n'a pas pour but de nous effrayer, de nous faire peur, mais je veux vraiment nous amener à réfléchir. Qu'allons-nous faire de ce trésor que Dieu nous confie chaque jour ? Qu'allons-nous faire de ces 86 400 secondes que nous avons chaque matin ? Il n'est pas question de vivre dans la crainte, mais vraiment de saisir ce que Dieu attend de nous pour ce temps qu'il nous offre. Et c'est exactement ce que Paul nous enseigne dans sa lettre aux Éphésiens. Il nous rappelle que, parce que nous sommes en Christ, notre vie prend une nouvelle direction. Et on va voir à la lumière de ce texte, chercher exactement ensemble la notion du temps et découvrir comment ne pas la subir, mais vraiment nous en saisir. Et Paul et aux Éphésiens, il ne cherchait pas à corriger une hérésie, mais il cherchait vraiment à les encourager, à encourager l'Église, à marcher dans l'unité, la sainteté, la sagesse, malgré le monde mauvais qu'il pouvait y avoir autour d'eux. Et on va lire dans Éphésiens 5. Versets 15 et 17. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Paul nous interpelle avec cette expression « rachetez le temps ». Mais avant de voir comment le faire, peut-être se demander pourquoi devons-nous le racheter ? Quelles sont les raisons qui sont indispensables pour racheter le temps ? Est-ce que je peux aller à une banque racheter le temps ? Pourquoi racheter le temps ? Quelle est la raison ? Il y a un mot qui est fort, c'est racheter. Paul n'utilise pas ici le verbe grec habituel pour dire sauver ou libérer, mais vraiment le mot hexagorazo, en termes commercial qui vient du monde du marché. Et dans l'Antiquité, ce verbe signifiait vraiment acheter tout le stock. Vous savez, si vous n'avez pas envie que quelqu'un d'autre ait la même paire de chaussures que vous, vous rachetez tout le stock, comme ça vous dites « moi j'ai tout » et vous, vous n'avez plus rien. Cette notion vraiment, c'est une action décisive, urgente, impérative. Et sur les marchés aux esclaves, racheter voulait dire payer une rançon pour rendre un esclave libre. Paul choisis ce mot pour montrer que nous devons redevenir maître de notre temps. Redevenir maître au lieu de le subir. Et cela dans la liberté que Christ nous a acquise. Saisir chaque instant. Chaque instant dans la lumière de la rédemption. Vivre chaque jour en se souvenant que quelqu'un a racheté notre temps pour l'éternité à la croix, c'est Jésus-Christ. Il est mort pour effacer nos péchés, pour que nous puissions vivre libres de l'emprise du péché, il a racheté le temps le plus profond, le plus important, notre éternité. Alors oui, racheter le temps, c'est utiliser nos journées, non pas comme si nous étions esclaves du péché, mais justement libérés de la peur ou des habitudes, et vivre en homme et en femme libres. Il y a quand même trois raisons de racheter le temps. Il le dit dans le verset, Paul, parce que les jours sont mauvais. On ne parle pas du temps mauvais de la pluie d'aujourd'hui. on parle vraiment des temps mauvais. Paul écrit à des chrétiens qui vivent à Éphèse, et qui est une ville prospère, mais qui est profondément marquée par l'idolâtrie, qui est profondément marquée par le culte d'Artémis, les commerces occultes, l'immoralité. On peut faire un rapport avec aujourd'hui, toutes ces choses, on les vit, on les voit. Les jours sont mauvais signifie que le temps présent est imprégné du péché. Il est soumis à l'injustice et aux forces spirituelles mauvaises. Et vous pouvez le lire dans Éphésiens 6, 12. Si nous ne rachetons pas le temps, ben, c'est le mal, l'obscurité, qui l'absorbera pour nous. Comme un marché corrompu, si nous ne nous emparons pas de la marchandise, quelqu'un d'autre, le monde, le péché, ou le diable s'en emparera à notre place. Et quelque part, c'est un appel à la vigilance. Rachetez le temps. Rachète le temps. Racheter le temps, c'est refuser que nos journées soient avalées par la banalité, par la tentation ou le mal ambiant. Racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Racheter le temps parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur votre corps, il y a une date de péremption. Cherchez-la. Je ne l'ai pas trouvée, moi, la mienne. La Bible nous rappelle que notre vie est courte et fragile. On le lit dans Psaume 103, verset 15. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Ou dans Jacques 4, 14. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Chaque jour est un don non renouvelable. Nous recevons 86 400 secondes chaque matin. Et le soir, ce que nous n'avons pas utilisé est perdu à jamais. Racheter le temps, c'est reconnaître que c'est précieux, que c'est fragile et qu'il faut bien l'utiliser avec intention. Il ne s'agit pas de courir, de se fatiguer à faire, refaire, défaire, ni de remplir nos agendas à l'excès, mais de choisir ce qui a une valeur éternelle. Racheter le temps, parce que les jours sont mauvais. Racheter le temps parce que le temps est compté. Racheter le temps parce que, à un moment donné, nous rendrons des comptes de ce don que Dieu nous a donné. La parabole des talents dans Matthieu 25 nous en parle et nous montre que Dieu est comme un maître qui confie des biens à ses serviteurs. Et à son retour, à un moment donné, il demande des comptes sur la manière dont chacun a investi ce qui lui a été confié, chaque seconde. Et le temps fait partie de ses dons. Est-ce que vous êtes conscient que Dieu vous fait un don chaque matin, de pouvoir vous lever, de pouvoir marcher, de pouvoir voir? 2 Corinthiens 5, 10, il nous dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Un jour, Dieu nous demandera non pas combien d'années as-tu vécu sur terre, mais comment nous avons investi ces secondes, les jours qu'il nous a donnés. Et Paul insiste vraiment, racheter le temps est essentiel. En Christ, nous sommes libérés de l'emprise du mal, de l'emprise du péché. Et Dieu nous confie le temps comme un don précieux dont nous aurons à rendre compte. Le temps n'est pas une fatalité à subir, mais une ressource à saisir et à remplir à la lumière de Christ. Maintenant que nous savons pourquoi il est important de racheter le temps, la question qui suit vient naturellement. Comment y parvenir concrètement ? Que signifie dans notre quotidien racheter le temps? C'est comme protéger et racheter son temps. C'est une question de posture à avoir. Aujourd'hui, je souris parce que cette semaine, j'ai fait une réunion avec certaines personnes et je leur demandais comment ça va, comment la rentrée s'est passée et tout. Et il y avait des remarques et je me disais, mais punaise, on dirait que ça fait 3 mois qu'on a repris. alors que ça fait qu'une semaine. Pour voir le tellement on subit le temps. On a ces remarques et le temps, c'est de l'argent. Mais dépêche-toi, j'ai pas le temps. Peut-être que ce matin, il y en a certains qui l'ont vécu, ça. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Nous cherchons toujours à faire plus en moins de temps, à rentabiliser nos journées. Je suis la première. Le genre de fille qui essaie de tout faire en 24 heures. Mais Paul ne nous invite pas à l'efficacité moderne. Il nous appelle à une sagesse spirituelle. Et on le voit dans Éphésiens 5, 10, 15 à 17, il y a quelque part quatre pratiques pour acheter le temps. La première, c'est « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. » Paul commence par un appel à la vigilance. Le mot employé signifie « regarder attentivement, examiner avec soin, racheter le temps ». S'éveiller sur notre conduite, sur nos choix, nos habitudes. La Bible nous dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont en train de devenir nouvelles. C'est vrai que des fois, on voudrait une baguette magique, clac, hop, c'est bon, tout change. Mais si c'était comme ça, il y a des choses qu'on ne comprendrait pas et on referait les mêmes bêtises ou les mêmes mauvais choix. Et cette nouvelle créature que nous sommes en Christ, que nous devenons, c'est dans ma manière de me comporter, dans ma manière de me traiter moi-même, dans ma manière de parler à mon prochain, dans ma manière de travailler, dans ma manière de considérer l'autre. Pourquoi faire attention? Pourquoi être attentif? Parce que finalement, le temps qui nous est offert peut nous glisser entre les doigts. Souvent, je fais une remarque et je dis le temps passe tellement vite qu'un jour, je vais ouvrir les yeux, je vais être grand-mère, je ne vais rien comprendre. Mais je l'entends souvent de nos aînés. Le temps passe tellement vite. Mais est-ce qu'il glisse sous nos doigts? Nous risquons parfois de passer nos journées sans réfléchir, en courant des fois après des urgences qui ne comptent pas vraiment. Chaque matin, peut-être demander à Dieu et de dire « Seigneur, aide-moi à marcher aujourd'hui d'une manière digne, d'une manière qu'il te ressemble. » Cette vigilance quotidienne, elle transforme nos vies et notre façon de vivre. Une autre pratique, c'est « Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. » La folie dans la Bible n'est pas un manque d'intelligence, mais la folie est une vie sans Dieu. La folie est une vie sans Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est dans Psaume 14, verset 1. Être sage, ce n'est pas encore avoir cet agenda bien rempli. C'est vivre selon la crainte de Dieu, comme Proverbe 9, 10 nous le dit. Pourquoi se comporter comme des sages? Parce que la sagesse biblique nous aide à choisir ce qui compte vraiment, ce qui est le plus important. On a la chanson quand on est tout petit, le fou sur le sable a bâti sa maison. On a l'histoire dans la Bible. Et le fou, il bâtit sur le sable. Et je pense qu'il y a des maçons ou ceux qui connaissent un peu le métier qui disent mais on fait pas, on construit pas sur le sable, on construit sur le roc. Et justement, la sagesse nous aide à choisir ce qui compte vraiment, à ne pas gaspiller le temps qui est si précieux. Une autre pratique, ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Racheter le temps n'est pas qu'une question de discipline personnelle, c'est surtout une question de direction spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels. Et pourquoi chercher la volonté de Dieu? Je crois que ça a été rappelé ce matin, dans une parole qui a été donnée. Parce que sa seule volonté donne un vrai sens à notre vie. Le vrai sens de notre vie. Et sans ce sens de la vie, nous pouvons être très occupés, mais totalement à côté de la plaque, totalement à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Jésus le vivait lui-même. Il le dit dans Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et nous discernons la volonté de Dieu par sa parole, bien sûr. Nous discernons par la temps de prière, de connexion, par la communion fraternelle. Ne soyons pas stupides, mais comprenons quelle est la volonté de Dieu. Dieu a créé la terre, les cieux, tout ce qui s'y trouve. Le septième jour, il s'est reposé pour apprécier sa création. Et ce que Dieu veut, c'est que nous lui rendons gloire dans tout ce que nous sommes. Et rendre gloire, c'est quelque part savourer ce don du temps qu'il nous donne et bien le gérer. Encore une application, c'est saisissez les occasions. Le mot grec kairos ne désigne pas ici le temps qui passe chronos, mais le moment opportun, l'occasion favorable. Racheter le temps, c'est reconnaître que chaque journée nous offre cette opportunité divine. Un geste de service. On en reparle de la serviette sale et les pieds propres. Un sourire peut-être, un mot d'encouragement, un témoignage à partager, une main à tendre. Saisir toutes les occasions parce qu'elles ne reviennent pas toujours. Je ne sais pas si ça vous est arrivé des fois de dire « Ah punaise, j'ai manqué cette occasion-là. Cette personne elle était en train de souffrir, de pleurer et tout. Et je n'ai pas parlé de Dieu, je ne lui ai même pas proposé de prier. » Mais c'est ça, c'est saisir toutes ces occasions. Paul le dit encore dans Colossiens 4, 5, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Arrêtons d'attendre le bon moment. À l'âge de 20 ans, je me suis dit, allez Anne, tu vas économiser pour le mariage. Je ne dirai pas l'âge que j'ai parce que j'attends toujours. Hein. Mais voilà. Et en fait, en économisant, mais un peu trop à l'extrême par moment, je me privais moi. Et puis je privais aussi de bénir d'autres personnes, de ce que Dieu m'accordait d'avoir. Et du coup, à un moment, je me suis arrêtée. Moi, je n'ai pas ouvert toutes les vannes, je n'ai pas distribué à tout le monde, mais... Sagement, je me suis dit, il faut arrêter parfois de dire, d'attendre le bon moment, mais c'est une occasion de bénir, alors je veux bénir aujourd'hui. Parce que Dieu me donne matériellement, mais par le temps aussi que Dieu me donne de bénir. Racheter le temps, ce n'est pas courir plus vite, mais marcher plus juste. Veiller sur notre conduite. Je ne parle pas de la conduite de quatre roues ou deux roues, hein, où des fois on grille les feux rouges et tout ça, mais veiller sur notre conduite de notre vie, choisir la sagesse, chercher la volonté de Dieu, saisir les occasions qu'il nous donne chaque matin, en vivant de façon intentionnelle et centrée sur lui, plutôt que sur la pression du monde, sur la pression de tout ce qui peut nous entourer. Une fois que nous avons appris à racheter le temps, à comprendre comment le racheter, on peut se dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ce temps racheté? Comment l'utiliser de la meilleure manière pour Dieu, et pour les autres? Racheter le temps. Racheter le temps, c'est apprendre à marcher d'une manière juste. Mais racheter le temps ne suffit pas. Il faut aussi savoir comment bien l'utiliser. Comment bien utiliser ce temps racheté? Il y a derrière cette question une petite notion d'organisation et de discipline. Dieu est un Dieu d'ordre. Et je le disais tout à l'heure, lorsqu'il a créé la terre, il n'a pas créé l'être humain en premier en lui disant « Tiens, attends, deux minutes, je reviens, je vais te créer un endroit où tu vas être bien tranquille, où tu vas pouvoir te reposer, tu vas pouvoir manger. » Non, il a fait les choses dans l'ordre, il s'est bien organisé. Et peut-être que dans nos vies, ce qui manque parfois, ce n'est pas la quantité de temps, mais c'est une organisation centrée sur notre mission, la communion et l'éternité. Et le meilleur exemple que l'on peut prendre, c'est la vie de Jésus. Comment bien utiliser le temps, ce temps racheté? Eh bien, c'est utiliser le temps pour la mission que Dieu nous confie. Jésus connaissait parfaitement sa mission. Il avait une vision claire de sa tâche et il organisait son temps en fonction de celui-ci. On voit un exemple pour la Pâque, avec ses disciples, dans Luc 18, vous pouvez le lire. Ils sont sur la route vers Jérusalem et donc ils y vont d'un pas assez chaland pour « Allez, on va fêter la Pâque ensemble ». Et là, qu'est-ce que Jésus fait? Il s'arrête pour guérir un aveugle. Parce que la mission de Jésus était de chercher et sauver ce qui était perdu. Alors que les disciples disaient « Mais Seigneur, il faut peut-être se bouger, le timing, il faut qu'on y aille, la fête, la Pâque et tout », Jésus s'arrête pour accomplir sa mission, parce qu'il savait quelle était sa mission. Il s'arrête encore pour rencontrer Zachée. Et pour la foule, là, c'était une perte de temps, surtout Zachée, collecteur d'impôts. Seigneur, qui tu vas fréquenter? Pour qui tu t'arrêtes? Mais c'était le cœur même de la mission de Jésus. Pour nous aussi, utiliser le temps, racheter, c'est aligner nos journées avec la mission que Dieu nous a confiée. Et si nous savons pourquoi nous sommes là, nous saurons aussi à quoi dire non et à quoi dire oui. Je me rappelle quand j'ai commencé à 19 ans à travailler dans le périscolaire, j'avais une collègue de travail qui faisait le ménage et elle gardait les enfants avec moi entre midi et deux pour le repas. Et à un moment donné, le directeur lui demande de faire quelque chose. Et elle dit « Ah non, je suis désolée, c'est pas écrit dans ma fiche de poste, je le fais pas. » Alors, il y a la réputation des fonctionnaires qui, moins ils en font, mieux ils sont. Hein. Mais quelque part, je me suis dit « Punaise Seigneur, quand on sait notre mission, on sait dire non à des choses qui ne sont pas dans notre mission. Pour bien accomplir notre mission, pour bien aller là où nous devons aller. Et la première des missions, c'est d'apprécier le don que Dieu nous fait de la vie, de ces secondes chaque matin, et de bien les utiliser. Comment bien utiliser ce temps racheté? Utiliser le temps pour la communion avec Dieu. La Bible dit, là où est ton cœur, là où tes trésors, pardon, là aussi sera ton cœur. Nous investirons notre temps là où seront nos priorités. Nous investirons notre temps là où seront nos priorités. Et encore l'exemple de Jésus. La communion avec le Père, elle passait avant tout, avant même qu'il commence son ministère, 40 jours, jeûne et prière. On le lit dans Matthieu 4. Avant de choisir les 12, dans Luc 16, 12, une nuit de prière. Il y a la prière aussi sur la montagne de la Transfiguration, dans Luc 9 et dans le jardin de Gethsémané, avant d'aller jusqu'à la crucifixion. Avant d'accomplir cette mission, il prend ce temps. Il prend ce temps. Je ne sais pas si on réalise quand même, parce que moi je trouve ça juste énorme, dans le jardin de Gethsémané, où il est là et il a des grumeaux de sang sur le front. Il sait qu'il va souffrir le martyre, la mort, et que s'il ne l'avait pas fait, on ne serait pas sauvés. Comment bien utiliser le temps? C'est prendre du temps avec Dieu. Cette communion importante. Si Jésus, le Fils de Dieu, a eu besoin de consacrer du temps pour prier, combien nous aussi, nous avons besoin de ce temps. Et bien utiliser son temps, c'est investir dans une communion avec Dieu. Cette semaine, je discutais jeudi avec Anita. Et du coup, je discutais sur la prédication, je lui partageais et je lui disais, tu sais Anita, il y a quelque chose que je me rends compte quand même, c'est que quand vraiment je commence ma journée à passer du temps avec Dieu, j'ai l'impression que les 24 heures se rallongent. Pourtant, il y a toujours 24 heures et j'ai le temps de faire ce qu'il faut. Et elle me dit, mais c'est vrai, mais t'es pas la seule, parce qu'il y en a beaucoup qui me rapportent ça en disant, quand j'ai la communion avec Dieu en premier, il y a une journée qui se passe agréable. Et même si elle est désagréable, Dieu nous donne la force de la traverser. Comment ? Utiliser le temps racheté, utiliser le temps pour investir dans les autres. Jésus n'a pas seulement prêché, il a formé, il a enseigné, il a délégué à ses disciples. Il a investi dans les 12 pour que sa mission continue après son départ. Et nous sommes appelés aussi à investir dans les autres. Investir auprès de notre famille, et j'encourage vraiment les parents, parce que j'ai entendu souvent, oui, bah, c'est pas grand-chose, je suis mère au foyer, pardon. Alors déjà, tu es en train de façonner, de conduire, d'accompagner tes enfants à être des adultes, à être des disciples de Jésus. Et c'est juste énorme. Investir dans les autres, déléguer pour que la parole de Dieu puisse être apportée, témoignée. Racheter le temps, c'est choisir de consacrer des moments pour aimer. Parce que, en fait, vivre comme Jésus, c'est vivre comme il a vécu sur terre. C'est ce regard d'amour, c'est cette main tendue, c'est cette oreille attentive. J'ai discuté avec mon grand-père, 91 ans, va faire 92 en décembre, cet été. Et de temps en temps, il dit « Oh, pff, je ne sais pas ce que je fais encore là, machin, nanana. » J'ai envie de dire la même rengaine que des fois. J'entends et je dis « Mais papy, Dieu, il t'a pas donné des dons ?» Moi, je me rappelais quand j'étais petite, tu prêchais, tu allais, tu faisais des visites et tout ça, mais parce qu'il conduit encore, hein, il se déplace. Il est... Et là, il me regarde quand même avec les yeux larmoyants et me dit « C'est vrai. » Je dis « Papy, il faut que tu investisses, tu continues à transmettre. » ce que tu as reçu. Et utiliser le temps, c'est pour investir dans les autres. Utiliser le temps pour investir dans quelque chose qui est important, c'est l'éternité. L'éternité. Comme on l'a vu tout à l'heure, nous sommes ici pour un temps. Et notre vie terrestre n'est pas la finalité, mais une préparation. Et Paul l'écrit dans Philippiens 3:20, « Notre cité à nous est dans les cieux ». Si ce matin, vous avez ressenti la présence lors des chants, rien que de rentrer ici, de la communion, de voir les frères, les sœurs, les uns, les autres, de sourire, c'est rien à côté de ce que nous vivrons durant l'éternité. Racheter le temps, c'est faire des choix qui portent des fruits spirituels durables. Non seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Et il y a quand même des points de vigilance. Rick Warren, un pasteur, disait « Si vous n'arrivez pas à tout faire, c'est que vous essayez d'en faire plus que ce que Dieu vous demande. » Ah, on aime bien se prendre pour les Wonder Woman, les Superwoman. Et Jésus connaissait ses limites humaines. Il savait dire stop. Il savait aller dormir. Il prenait le temps de repos, de prière. Il prenait parfois des temps de solitude. Et nous aussi, nous devons apprendre à gérer nos forces. Il y a la femme de William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, qui lui avait écrit à un moment donné « Une longue vie de travail suivie, constant et sanctifiée, produira plus de fruits qu'une vie écourtée par une effervescence compulsive. » On voit que la pression, le stress, je ne vous en parle pas, hein, on sait que c'est bien là, mais ce n'est pas la vie que Dieu nous demande. Et C.S. Lewis aussi nous le rappelait que faire mille et un travaux par agitation ou par orgueil n'est pas de la fidélité, mais un piège. Bien utiliser notre temps, racheter le temps, ce n'est pas en faire toujours plus. Mais c'est faire ce que Dieu nous demande avec fidélité, persévérance et équilibre. Alors peut-être que depuis tout à l'heure, vous êtes en train de rouloquer, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ça ? Ce bocal, c'est notre vie. Ce bocal, c'est notre vie. Pour l'instant, il est transparent. Et là, je mets des balles de ping-pong, pas pour les conserver, mais pour dire que ça, c'est les choses prioritaires. Temps de communion avec Dieu. La prise de temps pour nous. Prendre soin de nous. De notre famille. Et puis, arrive un peu tous les travails. Le travail, la voiture. Je secoue un peu. À chaque fois que je remplis un bocal de pâtes, je pense à ma mère qui, à chaque fois, revient derrière. Elle le fait comme ça. Regarde ma fille, encore de la place. Il y avait encore de la place pour tout ce qui est la voiture, le travail, les occupations. Et puis, On peut rajouter ce qui vient, ce qui est insignifiant. Les graines de café. Qui prennent leur place et qui rentrent. Bon, normalement, ça doit descendre, mais voilà. Pourquoi je vous image ça? C'est que si on place les priorités en premier, si on place notre temps avec Dieu en premier, les choses les plus qui doivent prendre le plus de place, on a encore du temps pour ce qui est du travail, qui est moins important, mais quand même. Puis on a encore du temps pour ce qui est futile, j'ai envie de dire. Et puis, on a même du temps pour aller voir quelqu'un et aller boire un coup avec lui. Alors, j'ai pris de l'eau, mais vous pouvez boire de la bière, du rhum, du thé, des jus pommes bio. Voilà. On a du temps. Dieu nous offre du temps. Je vais demander à l'équipe de louange si elle veut bien monter. Le temps est un don de Dieu, mais aussi une responsabilité. Pourquoi racheter le temps? Parce que les jours sont mauvais, parce que notre temps est compté et parce que nous devrons rendre des comptes à Dieu. Et on l'a vu, comment racheter du temps, c'est en veillant sur notre conduite, c'est en choisissant la sagesse, c'est en cherchant la volonté du Seigneur. Parce que ce que Dieu veut pour nous, c'est le meilleur. C'est vraiment le meilleur dans tous les points de notre vie, dans tous les détails de notre vie. C'est vraiment le meilleur. Et j'ai envie de dire, mieux vaut un qui sait que deux qui cherchent. C'est-à-dire que si tu as besoin d'un conseil vraiment spirituellement et dans toute ton éducation, dans tout ce que tu veux, Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Dieu entend tout. Donc va t'adresser à Dieu. Va lui parler, va lui demander. Et comment bien utiliser ce temps racheté? Ben, en l'investissant dans la mission que Dieu nous confie. En l'investissant dans la communion avec lui. C'est tellement important. Le message de Paul est clair, le temps n'est pas une fatalité à subir, mais c'est une ressource. C'est une ressource précieuse à saisir. Est-ce que ce matin, vous voulez saisir le temps que Dieu vous donne? Saisir toutes les opportunités qu'il nous donne pour témoigner de l'amour de Dieu. Saisir toute l'opportunité qu'il nous donne aussi pour de bien vivre nous aussi. Être heureux, épanoui, bien dans ses baskets. La vraie question ce matin n'est pas seulement « qu'ai-je fait hier ?» mais surtout « que vais-je faire aujourd'hui du temps que Dieu me donne ?» Comment je vais investir ce temps ? Dieu veut le meilleur pour vous. Et le meilleur, ça se passe déjà à la croix. Le meilleur, ça se passe à genoux devant lui ou seulement simplement avec des temps. Cherche premièrement cette communion. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Et toutes les choses seront données par-dessus tout. Amen.
Alléluia. Alléluia.
Dans un instant, on va reprendre ce chant. Je vais inviter l'équipe à rester. On va rendre encore cela un peu plus pratique en termes de vie d'église. C'est la rentrée. Vous savez que pendant l'été et même dans une année, il peut se passer plein de choses. Et on a besoin d'être une église pour aujourd'hui. Et on voulait prendre un temps avec vous pour prier pour quatre ministères dédiés, quatre leaders, quatre responsables clés pour lesquels on a vraiment besoin de les entourer, de prier pour eux. La semaine prochaine, on vous présentera tout le ministère 030 aussi pour prier ensemble. Mais ce matin, je voudrais inviter quatre personnes qui vont accepter d'investir de leur temps pour racheter le temps dans des services qui sont vraiment importants aussi pour la bonne santé et la conduite de l'Église. Je vais inviter Anita à vouloir venir. Anita est la nouvelle coordinatrice des groupes de vie ici à l'église de l'EPI. Vous savez, l'EPI, c'est plus qu'une rencontre dans ce lieu un dimanche matin. C'est plusieurs endroits, plusieurs lieux de vie. Et les groupes de vie font partie du poumon de la vie du disciple dans la semaine, dans une journée. Jérôme, en son temps, avait pris cette responsabilité pour donner un élan, redonner un élan. Et Anita, après un temps de réflexion, de prière avec le conseil spirituel, le CA, le conseil d'administration étant aussi investi dans la prière, a accepté de prendre cette responsabilité, de coordonner ces dizaines de petits groupes de vie. Et en plus, il va y avoir de la multiplication, on le croit. Anita, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Comme ça, vous pouvez l'identifier. Elle travaille avec des dizaines de leaders. Je vais inviter aussi Nathalie Govert-Sudert à venir, s'il te plaît. Vous savez, on vous a présenté en AG le fait que Freddy, après un temps investi en termes de décennies dans la trésorerie, un temps bien investi, il a racheté le temps. Il nous a aidés à ce qu'on soit une église qui sache en même temps investir dans les besoins et en même temps épargner. Et on veut encore une fois le remercier. Il est là, il sera peut-être gêné que encore une fois, mais est-ce qu'on peut encore une fois remercier Freddy pour ses plus de 37 ans? 37 ans de trésorerie. Il a bien racheté le temps et il nous a fait connaître sur la dernière année aussi, ben, que justement il souhaitait passer le relais de la trésorerie, mais aussi du conseil spirituel. Et on a pris un temps encore avec lui où Freddy nous a confirmé que le temps était venu d'aller vers d'autres responsabilités, d'autres élans, d'autres saisons de vie. Donc on vous l'annonce aussi que Freddy arrête son service dans le cadre du conseil spirituel. Il continue à servir dans le cadre d'un groupe de maison. Il donne du conseil encore. Pendant cette période de transition, vous vous souvenez, on a fait un appel public aux membres de l'Église, on a fait un appel au niveau des leaders de l'Église, on a essayé de trouver, de discerner ensemble la future trésorière ou le futur trésorier. Et pendant ce laps de temps, Nathalie, qui est au CA depuis quelques années maintenant, a dit « je me propose d'être en intérim ». Et on a comme ça exploré plusieurs profils, on a exploré ensemble. À la fin de cet intérim, il se trouve qu'en CA, avec le CS et avec toi aussi Nathalie, tu as désiré investir de ton temps pour prendre cette responsabilité de trésorerie au sein de l'Église. Alors je vous présente notre nouvelle trésorière. Je me sens tout petit parce que je suis à compter de deux grandes femmes. Hein ? Vraiment, je suis béni de ce ministère qu'on peut vivre ensemble, hommes et femmes, ici à l'EPI. C'est tellement une bénédiction. On a travaillé avec Freddy pour étoffer l'équipe et il y a plusieurs personnes qui se sont levées. On a externalisé une certaine partie des besoins qu'on avait dans la comptabilité, dans la paye ou autre, parce que vous savez que l'église de l'EPI rémunère par des émoluments des pasteurs et on veut toujours essayer de répondre au plus précis aux besoins de l'église selon les ministères dont on a besoin. Mais du coup, on s'était engagé aussi à étoffer l'équipe pour que Nathalie se retrouve pas toute seule. Et déjà, rien que dans le cercle du conseil d'administration, il y a des sœurs, des femmes qui sont là pour prendre soin d'elle, pour l'interroger comment ça va, comment on peut t'aider. On travaille en petite commission aussi, tout ne repose pas sur ses épaules, on essaie de travailler en sous-commission. Après, il y a toutes les responsabilités. Mais on a aussi un ministère qui a émergé et je vais demander à André Vell s'il veut bien venir. C'est notre trésorier adjoint. Voilà, merci André de venir. André y investit aussi dans un groupe de maison. Voilà, c'est quelqu'un qui rachète le temps aussi, qui investit de son temps. Donc, en tant que trésorier adjoint, il ne prend pas des tâches de trésorerie de Nathalie, mais il va aider pour tout ce qui est collecte, tout ce qui est comptage, vraiment pour que Nathalie puisse être concentrée sur d'autres sujets. Donc, on étoffe comme ça les équipes et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour nous que tout ne repose pas sur une personne. Mais qu'on travaille toujours en équipe, dans la collaboration, dans la coopération. Donc ils font un beau duo avec le CA. On est très très heureux de pouvoir être avec eux. Donc voilà, donc si des fois André vient vous solliciter, vous membres participants réguliers pour aider, s'il vous plaît, prenez votre serviette, salissez-la avec André, s'il vous plaît, pour laver les pieds de l'église, d'accord ? Une dernière information aussi, je vais inviter Anne à venir. En assemblée générale, et puis depuis plusieurs années, vous voyez Anne qui se développe dans son ministère, qui a démarré en servant au bureau, dans l'administratif, au niveau de la jeunesse, où elle a exercé vraiment toute la responsabilité jeunesse. Puis après, il y a plein d'autres choses qui sont venues étoffer un petit peu la femme de Dieu qu'elle est. Et sur cette dernière année, avec du discernement, de la prière, avec le conseil d'église composé du conseil d'administration, de l'équipe pastorale, du conseil spirituel, on a interrogé Anne sur l'appel qui est sur son cœur. On a interrogé aussi des personnes avec qui elle sert et on a vraiment discerné qu'il y avait un nouvel élan, une nouvelle saison sur le pastorat au niveau local ici à l'église de l'Épi et elle a pris des responsabilités dans les entretiens, dans les visites au niveau pastoral. Elle s'occupe beaucoup aussi d'accueillir aussi les sœurs, les femmes et dans des entretiens pour les accompagner dans la prédication. Elle porte aussi toute la coordination du pôle 030. Donc qui est quand même un pôle, c'est un des ministères les plus étoffés de notre église aujourd'hui, avec en moyenne plus de 120 mineurs chaque dimanche qui viennent ici pour vivre des choses. Donc un ministère et du temps bien investi. Avec le départ de Jérôme, on s'est interrogé aussi sur la suite au niveau de la conciergerie. Et c'est tout naturellement que Anne s'est aussi proposée pour devenir la nouvelle concierge de l'église de l'Épi. Alors je voudrais aussi qu'on puisse l'encourager, la bénir. Alors je sais que certains, ils aiment pas toucher à la langue française, mais je voudrais honorer un de nos anciens dans la responsabilité spirituelle qui s'appelle Jacques Lopa, que je vais d'ailleurs inviter à venir, et qui a inventé un néologisme quand Jérôme est arrivé, qu'il exerçait le pastorat et la conciergerie. Ici à l'Épi, nous sommes heureux d'avoir une pastierge. Voilà, contraction de pasteur et de concierge. Ça vient pas de moi, c'est Jacques Lopa, d'accord ? C'est lui qui a déposé le brevet à l'Académie française, et normalement ça devrait passer. Est-ce que je pourrais inviter tout le conseil d'administration, toutes les personnes qui sont présentes au conseil d'administration, conseil spirituel, de bien vouloir s'approcher, s'il vous plaît. On va prier pour ces ministères clés. Je pense qu'il doit peut-être encore en avoir dans la salle, si jamais. Donc Xavier, je le vois, s'il vous plaît, Monsieur Pio, merci de monter. S'il y en a d'autres aussi qui sont là. Et en tout cas, on va prier maintenant pour ces ministères. On va demander au Seigneur sa grâce. Soyez bons, soyez doux les uns avec les autres et avec nos ministères ici. On veut prendre soin d'eux et Jacques va être notre porteur et vous, Église aussi, de prier pour que le Saint-Esprit continue son œuvre dans chacun de vos ministères. Ça, c'est notre prière. Ok ?
Voilà, on s'est déjà levé. On peut tendre la main vers eux pour les bénir aussi. C'est toute l'Église qui sera bénie au travers d'eux, mais nous aussi, nous voulons leur transmettre la bénédiction. Seigneur, merci pour les dons, les ministères, les talents que tu rajoutes à ton Église afin qu'elle puisse croître, qu'elle puisse avancer. Et c'est une bénédiction et une grâce d'être ensemble et de partager ces moments-là. Alors nous te remercions et nous te bénissons encore. Nous te remettons chacun, Seigneur mon Dieu, dans tout ce qu'il a à vivre, à faire, à apporter à l'Église. Nous prions qu'une onction spéciale repose sur eux. Nous prions que toute l'onction de ton esprit les accompagne dans leur ministère, dans leur talent. Nous prions aussi que tu leur donnes, Seigneur, toute ta sagesse également, afin, Seigneur mon Dieu, de servir l'Église. Prions également que tu les remplisses aussi de tous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, afin que dans les moments difficiles, compliqués de rapport avec les uns et les autres, ils puissent, Seigneur, aussi pouvoir manifester qui tu étais. Alors Seigneur, merci pour ton amour, que vraiment ta grâce les accompagne, que ta bénédiction repose sur eux Seigneur, et que cette bénédiction coule Seigneur tout au long de leur ministère, et que l'Église soit encouragée, fortifiée, relevée, restaurée, bénie, guérie Seigneur, au travers de ce que les uns et les autres auront à apporter. Donc à toi soit toute la gloire, l'honneur, la reconnaissance et la louange de nos cœurs. Amen. Amen.
On va rester là, nous, et on va prier ce chant, chercher d'abord une prière de consécration, une prière de foi, avec toute l'équipe de louanges, de juste reprendre ce chant comme une prière. Cherchons ensemble l'église de l'Épi, d'abord le royaume et la justice de Dieu. Plusieurs autres infos viendront, vous aurez l'occasion de les découvrir, les connaître dans aussi ce qu'ils font, dans leur vie de tous les jours. Ce sont des personnes qui, dans le milieu professionnel aussi, portent des choses et on essaye de faire des choix avisés avec la sagesse de Dieu. On essaie vraiment d'être au plus proche de ce que le Seigneur veut. On n'est pas parfait, mais on est des disciples de Jésus. On veut prier, qu'on veut chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Amen. Amen. Oui, les gens le voient. Voilà, vous voyez pour le véhicule, merci de vous lever et de pouvoir le déplacer d'urgence, s'il vous plaît.
Cherchez d'abord le royaume.
Oh, faisons monter cette prière.
Et sa justice.
Et par la foi, croyons-le ce matin.
Et toutes choses vous seront données.
Alléluia.
Alléluia, alléluia.
Alléluia veut dire loué soit Dieu ensemble. Alléluia.
Alléluia. Alléluia.
L'homme et l'épi ne vivra pas de pain seulement, l'homme.
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche.
À l'église, proclamons-le. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia,
alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.
Amen. Amen. Si d'une manière ou d'une autre, cette célébration vous interpelle, éveille en vous quelque chose, on est très heureux à l'église de l'Épi d'avoir une équipe d'écoute et de prière pour donner prolongement à ce que vous avez vécu peut-être sur le temps avec pas mal de fardeaux à déposer. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a des frères et des sœurs qui sont là et qui seront avec un badge sur ma gauche, sur votre droite. Toute l'allée là va être libérée. N'hésitez pas à aller rencontrer ces personnes qui vont vous écouter, prier avec vous et que vraiment Dieu soit béni pour tout le reste. L'apéro start, c'est proactif. La vie de l'église à votre sortie directement à votre droite. Vous pouvez vous inscrire et vivre la vie de l'église. On vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et que Dieu soit béni.